Amis de Radio Occitanie, de la poésie, bonsoir. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, nous avons dans nos locaux de la rue de Salie la joie d'accueillir un poète qui est un poète familier de la vie de la poésie à Toulouse, qui est Casimir Prat, et qui n'était pas venu nous rendre visite depuis un temps immémorial. Bon, j'exagère un peu, mais il y a quand même trop longtemps, Casimir, que tu n'étais pas venu nous rendre visite. Alors, nous sommes très heureux ce soir de t'accueillir. Tu vas nous parler, bien sûr, de tes publications passées, mais également de tes projets, de tes publications à venir, et peut-être d'une façon plus générale de la poésie contemporaine. Si tu le permets, avant de te donner la parole, je voudrais faire quelques signalements. Ce ne sont que des signalements, je ne veux pas trop appréhender de temps. Il s'agit des éditions Poepsie, d'excellentes éditions. C'est une collection de poésie qui est dirigée par Daniel Fongeras et Pascal Janot, qui appartient aux éditions ERES, qui sont des éditions toulousaines, hein, c'est donc à l'honneur de Toulouse, même si cette association Pso et Psy se trouve dans le Gard à Liouc. Alors, cette maison d'édition a la particularité d'éditer des petits recueils dans un petit format, format poche. Souvent, c'est cartonné, c'est une présentation est très soignée. Et ce sont 9 fois sur 10, c'est une des caractéristiques d'ailleurs de cette maison d'édition, ce sont des poèmes brefs. Voilà. Et donc, poèmes brefs, voilà, petit format, c'est ça. Et donc, nous y consacrerons d'ailleurs une émission, je pense, plus ample à ces 3 publications. Et une des caractéristiques également, c'est surtout Daniel Fongeras et Pascal Janot, sont aussi des traductrices. Par exemple, Daniel Fongeras a traduit les œuvres complètes de Lorca. Très bien d'ailleurs. Il y en a 2 qui ont traduit ça. C'est Michel Host, qui a eu le prix Goncourt, je ne sais plus en quelle année, 1976, qui est un poète, hein, et qui a traduit Lorca aussi d'une façon assez remarquable, qui a publié ça aux auditions chez Sylvain Arabeau, aux éditions Alcyone, maintenant. Et puis Daniel Fongeras, aux éditions Poepsie. Et là, elle publie. Pepetuna de Apirana Taylor, c'est traduit de l'anglais et du maori par Manuel Van Thieven et Sonia Proti. Il y a un dessin de Germain Roez. Ensuite, deuxième publication, c'est Cette vue de Rudger Copland, c'est traduit du néerlandais par Jean Misquin et Pierre Galissaire avec des dessins de Jean-Pierre Dupont.
Rudger Copland, je le connais. Il a été publié chez Gallimard. C'est un immense poète.
Voilà. Alors, ce sont 9 fois sur 10, hein, dans cette collection, ce sont quand même des poètes reconnus, internationalement reconnus, et pour lesquels elle trouve une œuvre un peu particulière, qu'elle traduit en français et qu'elle nous donne donc à lire. La lumière d'hier, de Lucien Blaga, qui est traduit du roumain par Andrea Maria Lemaru Cares. Voilà. Donc là aussi, la poésie roumaine est très peu connue en définitive. Hein. Oui. Et là, il y a des pastels de Sophie Curtil. Voilà, tous ces petits livres sont disponibles dans la collection Poepsie, donc en librairie, et vous aurez les coordonnées de tous ces livres sur notre site Les Poètes tout attaché sans accent, site, S-I-T-E. Voilà, pour les annonces, étant précisé, bien entendu, que nous reviendrons en détail avec des lectures d'extraits sur ces 3 ouvrages. Et puis, dernière annonce, il s'agit de Brigitte Maillard. Alors, Brigitte Maillard, c'est l'éditrice des éditions Monde en Poésie. Qui a une œuvre poétique également, qui a été d'ailleurs, c'est assez amusant pour nous Occitans, elle a eu un prix de la chanson poétique qui a été décerné par l'Académie des Jeux Floraux il y a quelques années. l'Académie Jules Floreau, qui a été une des premières, en définitive, à reconnaître Brigitte Maillard. Elle a donc, j'essaie de retrouver ses publications. Alors, elle a fait paraître Soleil, vivant soleil, avec une préface de Michel Cazenave, à la librairie Galerie Racine. Et puis surtout, à l'éveil du jour, Monde en poésie, donc chez elle. Nous avons largement parlé de ce livre ici, à Radio Occitanie. Et L'au-delà du monde à la librairie Galerie Racine l'année dernière. Non, il y a 2 ans, oui, il y a 2 ans. C'est avec L'au-delà du monde qu'elle rentre aussi dans l'histoire de la poésie toulousaine, puisqu'elle a le prix de poésie 2017 des Gourmets de lettres, donc décerné sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, un des premiers couronnés par l'Académie des lettres qui a eu ce prix de poésie est Michel Baglin. Michel Baglin, voilà. Moi-même, je l'ai eu il y a quelques années. Et voilà. Ensuite, elle a publié La simple évidence de la beauté, qui est paru en juin 2011 chez Atlantica, avant que Atlantica devienne Alcyone. Et ça a été repris cette année, d'ailleurs, La simple évidence de la beauté, sous une édition revue augmentée. À Monde en Poésie Édition. Monde en Poésie Édition, c'est une maison d'édition qui est bretonne, et c'est pour ça d'ailleurs que, sous la demande de Brigitte Maillard, j'ai publié mon ouvrage sur la Bretagne, donc dans cette maison d'édition. Alors, il se trouve que Brigitte Maillard fait part dans toute son œuvre poétique, d'une expérience vécue très profonde, qui est aussi l'expérience de la résilience, c'est-à-dire de comment on surmonte la souffrance, la maladie. Et elle a surmonté toutes ces épreuves grâce à la poésie, grâce à la langue, grâce aux lectures qu'elle a pu faire et grâce aussi à ce travail de création poétique, c'est-à-dire grâce aux mots. Elle est arrivée avec ses mots à une spiritualité sans dogme, une spiritualité absolument sans religion, hein, qui est tout à fait remarquable. Alors voici ce que dit par exemple Marie-Josée Christian, que tu dois connaître certainement, qui est aussi une poétesse qui vit en Bretagne, dont nous allons d'ailleurs consacrer une émission, à laquelle nous allons consacrer une émission bientôt. Elle dit, profondément puisée dans l'expérience, la poésie est ici synonyme de vie, initiatique comme un champ de mémoire. Et notre ami Michel Baglin disait à propos d'elle, une poésie qui accompagne vers une spiritualité sans Dieu et qui, comme le disait Charles Minetti, donne du mérite à la vie. Voilà. Ce qui nous concerne, j'avais dit, une grande poésie de célébration et d'une impressionnante spiritualité sans dogme. Et Véronique El-Fakir dit, Brigitte Maillard interroge cette tension permanente entre le réel et son envers, et en définitive entre la vie et la mort, dont toute existence porte la déchirure à la fois éblouissante et tragique. Donc, parole d'amoureuse, parole de rescapée du péril d'endormissement de celle qui a éprouvé la traversée du désert, dit Gérard Cléry à propos de cette œuvre. Voilà. Brigitte Maillard, je vais vous lire donc juste un extrait de Il y a un chemin. Il y a un chemin. Tout est à l'arrêt, au coin du ciel, un passe-plat d'envergure, une courageuse hésitation, reprends place en toi-même, porte le ciel, tout ira mieux. Ton regard dérape en silence. Je ne sais pas bien où fuir, où regarder. Tu réfléchis, le charme des ans inexistants approche de l'être sans ce qui va avec. Prends le temps de mourir, tu ne t'en relèveras pas. Pourquoi cet abandon du silence? Toi qui veux mourir, de quel soleil es-tu? Ta sagesse est-elle joyeuse? Le chemin en plastique dit adieu à tout ce qui rêve, Il est tout ce qui dort au fond de la cale, ennui, misère, écrit. Voilà. Brigitte Maillard, Il y a un chemin, librairie Galerie Racine. Le livre vous coûtera 15 euros. Si tu le veux bien, mon cher Casimir, nous allons maintenant, avant de commencer à t'entendre dans tes œuvres, nous allons écouter, je crois, un morceau que tu affectionnes particulièrement pour deux raisons. La première, parce qu'il s'agit d'un poème mythique de René Guicadou, qui est Moineau de l'an 1920, l'an 1920 étant sa date de naissance, il est né en 1920. Et il est chanté par une de nos amies que nous saluons ici. Elle aura le plaisir à s'écouter aussi. Nous en envoyons notre amitié. Voilà. Il s'agit de, je Martine te laisse le dire,
Kaplan.
Martine Kaplan. Voilà, nous l'écoutons tout de suite.
Moineau de l'an 1920, la route en hiver était belle. Et vivre, je le désirais comme un enfant qui veut danser sur l'étang au miroir trop mince. Ô toi qui m'as connu mon père, tu témoigneras pour moi s'il le faut dans le prétoire à peu près vide des années. Je ne suis point venu sur cette place ensoleillée où c'est la fête, avec des intentions de sergent de ville ou de marchand de bêtes. Et s'il me plaît à moi de laisser rire et de pleurer tout seul dans l'allée, dites, qu'est-ce que ça peut faire au juge l'enfant sous la roue, quand il y a de jolies femmes sur les bancs et que l'air est particulièrement doux? Condamnez celui qui veille sur les lys et les absinthes. Les secondes lui battent dans le cœur comme des graines de coloquinte. Je suis là pour tout accepter et je ne plaide pas innocent. Je crois en Dieu parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Parce que c'est tout à fait extraordinaire d'être né un jour de carnaval au fond de la Brière où rien n'est travesti, où tout se règle à l'amiable entre deux coups de fusil. J'ai revu cette nuit les compagnons de mon enfance qui pourraient vivre chantournés avec des barbes, comme des crédences. Ce sont les prêtres de ma religion, mais leurs fils ne sont pas dans le secret de notre opération. Tu t'es fait des copains partout dans ta mémoire. Tu sais bien qu'au matin tu peux partir à jeun. Sous des pommiers, dans la rue triste d'une ville, quelqu'un sera debout qui te tendra les mains. Je voudrais vous rejoindre ainsi qu'un parent oublié et sans fixer de date. Mais votre continent est inconnu et les eaux sont trop profondes sur les cartes. Je songe à vous auprès d'Hélène en le fouillis de ma maison. Mais on ne refait pas l'histoire de Jeanne. Et il n'y a pas de raison pour que ce soit toujours le même qui entende le cri des hommes qui ont mal et le gémissement des plantes. Mille tendresses à vous tous que je ne connaîtrai jamais. Et je peux bien mourir en douce. Nul de vous n'en aura regret. Je suis debout dans mon jardin, à des kilomètres de la capitale. Je retrouve contre la joue du soir l'inclinaison natale. Des oiseaux parlent dans la haie. Un train sans voyageurs passe dans la forêt. Et ma femme accueillit les premières piqueurs. Quelques-uns de ceux que j'aime sont assis dans des cafés littéraires. Je ne les envie pas, ni les méprise, pour autant. Mon chien s'ennuie. C'est peut-être le printemps. Et tout à l'heure, je vais jaillir du sol comme une tulipe. Vous achevez vos palabres aux deux magots bien élites. Je monte dans ma chambre et prépare les feux. J'appareille tout seul vers la face rayonnante de Dieu. Croyez-moi, je ne suis pour rien dans ce qu'il m'arrive. J'ai 29 ans et c'est un tournant suffisamment décisif. Je connais vos journaux et vos grands éditeurs. Ça ne vaut pas une nichée de larmes dans le cœur. Abattez-moi comme un ormeau domanial au bord de la grande forêt rouge. Vous ne pourrez jamais rien contre ce chant qui est en moi et qui s'échappe par ma bouche. Peu m'importe l'interdit des lâches. Et que mon lead ne soit jamais enregistré. Il est porté par le bouvreuil et l'alouette, jusqu'à la haute cime des blés. Buvez quand même, ô fils ingrat, buvez mes larmes, et dans l'instant désaltéré, crachez sur moi, crachez bien droit, comme des hommes. Cadou s'en moque.
Kaplan, qui interprétait donc le Mono de l'an 1920, ce poème extraordinaire, dans lequel d'ailleurs tout, à mon avis, tout cadou est résumé dedans. Je me souviens d'avoir lu ce texte à l'université Bercheva en 1983, devant un amphithéâtre qui était plein d'étudiants francophones. Et ce poème les avait réduits dans un silence absolu. Voilà.
Ah oui. Voilà.
Le miracle de la voix. Il y a eu Cadou, les textes de Cadou, et puis Jean Malrieu aussi. Jean Malrieu, tout de suite, l'attention était.
Voilà.
Alors, Casimir, donc je regarde tes publications. D'abord, je ferai une seule remarque. Ta prochaine publication est-elle en cours? J'espère que oui.
Pour l'instant, il y a des projets qui sont dans mes tiroirs, mais que je n'ai pas encore fini de mettre au point. Je viens de d'arrêter ma vie active, donc, et de prendre ma retraite. Et je suis, bon, effectivement, depuis une dizaine d'années, j'ai un peu, à cause de mon travail, mis la pédale douce, disons, comme on dit, sur la création et sur la poésie, parce que je n'avais plus
la disponibilité, force, parce qu'il n'y a pas que le temps, il y a aussi la disponibilité.
Voilà,
c'est-à-dire, écrire n'est rien, voilà. Ce qui est difficile, c'est être en situation d'écrire.
Et d'ailleurs, voilà, il y a ça, cet aspect-là des choses de l'expérience créative, de l'expérience de l'écriture, et que, donc, je pense, chacun vit de manière spécifique et personnelle, de manière très, très distincte, et chacun a sa façon d'arriver à écrire. Et pour moi, depuis 10 ans, je n'y parvenais plus pour des raisons tout bêtement physiques, puisque mon travail m'épuisait et je n'avais plus le temps ni la force donc d'écrire. Et c'est vrai que donc depuis que j'ai arrêté mon travail et que je suis donc à la retraite depuis une petite année, je commence à pouvoir retrouver mes marques et retrouver les manuscrits que j'avais par force, par nécessité, abandonnés en cours, et essayer surtout de produire du nouveau.
Oui,
surtout. Je le dis parce que bon, il y a certaines personnes qui sont très gentilles et qui considèrent que je devrais continuer à écrire, et donc qui m'encouragent régulièrement et qui attendent et qui me le font savoir, et je suis désolé, mais je n'ai pas pu jusqu'à maintenant à y arriver. Voilà. Et je voudrais aussi justement à ce propos parler de, parce que c'est une question, quand on n'écrit pas, malgré tout, on ne cesse de se questionner sur le qu'est-ce qu'écrire et pourquoi j'écris pas et qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui fait que est-ce que l'absence d'écriture n'est pas parfois mieux? Est-ce que qu'est-ce que c'est qu'écrire aussi? Qu'est-ce que c'est que parler? Qu'est-ce que c'est que la parole? Qu'est-ce que sont que les mots, les phrases? Ça remet toutes les choses à plat au bout de pas mal d'années, quand, comme moi, au bout de plus de 10 ans, on n'a pas eu l'occasion de s'atteler à un projet d'écriture. Enfin, projet d'écriture, j'aime pas beaucoup ce terme-là parce qu'il fait référence à un domaine qui m'insupporte, qui est, je ne dirais pas lequel, mais dans une construction d'écriture plutôt que projet. Parce que lorsqu'on s'attelle à une écriture sur le long terme, hein, donc il faut qu'on ait devant soi un horizon assez dégagé. Ne pas avoir de soucis, de quel que soit. Parfois, l'écriture peut être perturbée et interdite pour X raisons. Pour moi, un des écrivains qui a dit les choses les plus intéressantes sur le sujet, c'est effectivement Kafka, et qui justement était quelqu'un qui n'a cessé de se battre avec sa propre écriture, avec ses propres livres. Il considérait que son œuvre, très souvent, il disait que ça valait rien, alors que c'est une des œuvres majeures de la
Universelle
littérature
culture
mondiale,
mondiale.
Kafka. Mais il avait parfois une idée, il proférait des sentences assez dures sur sa propre écriture. Parce que justement, c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie en parallèle de son écriture, qui a gagné son pain, qui a la sueur de son front et qui a beaucoup été mobilisé par son activité professionnelle, et où l'écriture était malgré tout la chose la plus importante pour lui, mais qui venait bien après. Voilà. Et c'est cette balance qui est parfois mystérieusement difficile à atteindre. Voilà. Voilà. Entre les exigences de la réalité, il faut bien se nourrir, manger, travailler.
C'est ce que je disais tout à
Voilà.
l'heure, c'est-à-dire écrire n'est rien, être en situation d'écrire,
Voilà.
là réside la difficulté.
Voilà, et voilà, donc, je voulais aussi faire juste moi-même une petite publicité pour une amie
Oui,
poète que j'aime
justement,
beaucoup, qui s'appelle
oui.
Josette Segura, qui vient de publier un recueil adorable qui s'appelle Au plus près de nos pas. Je voudrais juste en dire deux. Ce sont quatre livres.
Quelles éditions, pardon?
Alors, c'est les petites éditions, les cahiers d'Iliador. Qui se trouve à Paris, 14 rue des Saints-Pères, 75 005, Paris. Édition Iliador.
On t'écoute.
Et donc, voilà, un sur le rouge-gorge, qui est un petit haïku. Le rouge-gorge, sa petite flamme vole. Sans elle, je le verrai à peine au lever du jour. On parlera toujours du feu à son sujet. Comme il réchauffe, lui qui a froid. Et celui-ci sur les cigales. Trop chaud pour le mois de mai, on s'assoit sous les arbres de l'abbaye. Les cigales, cette joie de les entendre pour la première fois, leur latin prend appui sur le silence, monte et descend. S'envole, on dirait une fontaine cachée dans les arbres. Voilà, et tout le recueil est
Tu rappelles le titre, s'il te plaît, Casimir?
de ce tonneau.
Donc, Au plus près de nos pas, de
Voilà.
Josette Segura, Les cahiers d'Illador. Et le livre vous coûtera 15 euros. Voilà, Josette Segura, oui. On aura peut-être le plaisir de la faire venir. Tu sais où elle est maintenant, actuellement?
Elle est
Toujours
Gers,
dans le Gers?
à Jegun, un petit village du Gers,
Donc, Gers.
ouais, elle a donc mené pendant bien 15 ans, je crois, ou voire plus,
Oui,
les éditions de l'arrière-pays
l'arrière-pays,
avec
oui,
Éric Dazan.
Eric Dazan, oui.
Et là, elle a cessé son activité
Oui.
éditoriale et elle se consacre
À son,
essentiellement
à
à
son,
ça.
ses écrits personnels,
Voilà.
il serait temps.
Et je voulais aussi, parce que donc, depuis que je suis à la retraite, je relis certains livres et en particulier, je suis tombé presque un peu par hasard sur un livre de Eri De Luca, un écrivain italien. Qui m'a toujours beaucoup interrogé. C'est quelqu'un aussi qui a un parcours très atypique, puisqu'il était. C'est un autodidacte. Il a commencé, enfin, il était maçon. Et puis, donc, il s'est intéressé à l'écriture. Bon, son père avait une grande bibliothèque, il a lu, et puis bon, donc, et il a écrit bon, des chefs-d'œuvre comme en particulier Montedegno, qui est, à mon avis, son plus beau roman, puisqu'il a surtout écrit du roman, mais il s'intéresse beaucoup aussi à la poésie et aux écritures saintes en particulier. Il a écrit un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Noyau d'olive, où il explique comment tous les jours, et quand il se lève, il ouvre la Bible à n'importe quelle page. C'est pas du tout une prière, c'est pas du tout, c'est une leçon de vie. Il prend une citation de la Bible au hasard. Et il fait comme, il le garde dans sa tête, comme on garde, vous savez, un noyau d'olive dans sa bouche, juste pour le plaisir d'avoir encore le goût de l'olive dans sa bouche. Lui, il garde cette citation de la Bible pour en faire un peu l'emblème de sa journée, la matière, la réflexion, un peu tout et n'importe quoi. Il se dit, tiens, cette phrase-là, elle a quelque chose à me dire aujourd'hui. Voilà. Et voilà, bon, Eric de Luca est très, bon, il dit qu'il est en combat avec la religion et avec mais il est nourri par surtout par les Écritures saintes, et en particulier la Bible. Et je suis retombé sur l'autre jour sur un de ces autres livres qui s'appelle Essai de réponse, qui sont un ensemble de petits textes sur qu'est-ce que c'est que la création, l'écriture. Et c'est quelqu'un qui s'interroge même sur comment dire, la matérialité même des mots et sur bon, aussi leur étymologie. Et là, dans ce passage, il parle de l'hébreu, l'hébreu biblique. L'hébreu biblique, c'est doté d'une lettre qui, en préfixe, change le temps des verbes, le futur en passé et le passé en futur. Cette lettre s'appelle Vav. Je ne connaissais pas. Elle s'écrit comme un signe semblable à un clou en forme de L à l'envers et se traduit généralement par la conjonction et, ET, en français. Les Hébreux l'ont vert dans son caractère graphique la forme d'un ustensile, Vav. Nom de la sixième lettre de leur alphabet signifie crochet. Les grammairiens l'appellent en l'interprétant de différentes façons, vav inversive, conversive et consécutive. Moi qui ne suis pas un adepte de leur discipline, je m'affaire autour de son signe graphique. Plus qu'un crochet, j'y vois la forme d'une clé, simple instrument qu'on applique à des serrures et à des pentagrammes. Parfois, sous l'effet du vin, je découvre en elle le fer crochu d'un noueur de tapis, maître de l'enchevêtrement. Entre ses doigts se trouve le vav, griffe du temps que l'écriture de la Micra utilise à ses fins. Nous pouvons l'appliquer, mais non pas le comprendre tout à fait, comme l'électricité, l'abeille, le rêve, la vague. L'hébreu est comme une pierre dure des langues, pierre dure de la gigantesque machine de la création qui décide de se réduire à une révélation, de se réduire à un langage, à une nouvelle, en choisissant une langue pratique, concrète, matérielle. En hébreu se produit le plus grand événement possible pour la parole, c'est-à-dire la coïncidence entre la parole même et le fait accompli, la chose créée. Le mot hébraïque davar veut dire aussi bien parole que chose, fait, action. Cette coïncidence n'est pas due à une pauvreté de vocabulaire, mais elle est due au fait que la parole est immédiatement action, chose faite. Voilà, ce passage voilà, par cette idée, cette idée de la langue hébraïque, de l'hébreu biblique, comme étant une langue qui est d'ailleurs même dans la Bible elle-même, à savoir la parole, il suffit de dire pour que cela soit. Et le verbe, voilà, et que le verbe est la réalité, et qu'il n'y a pas de hiatus, qu'il y a une continuité, que c'est pratiquement la même chose. Et cette idée-là, je trouve qu'elle devrait définir la poésie. Quelle est la définition même de la poésie?
C'est faire la poésie, la définition de la poésie.
C'est le faire, c'est aussi, c'est ce que disent tous les poètes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, qu'il y a une continuité entre la profération, la création littéraire, poétique en particulier, et la réalité, qu'il y a une coïncidence, comme il dit.
Alors, c'est tellement juste ce que tu dis que quelqu'un qui connaît très bien la Bible, pour y avoir consacré une grande partie de sa vie, et même dans la dernière partie de sa vie, puisque quand il a traduit la Bible, il ne pouvait plus faire autre chose, j'en sais quelque chose, puisque il devait faire une préface pour un de mes recueils, c'est Henri Michelic.
Ah, voilà.
Alors, on trouve Henri Michelic, et ce que tu viens de dire, Henri Michelic, il a dit en une phrase, il dit « Je passerai ma vie à ressembler à ma voix. Je passerai ma vie à ressembler à ma voix. » C'est exactement la définition de ce que tu viens de dire.
Voilà. Ce que Éric de Luca essaie de...
Et il dit « Le poème est une invention de langage qui transforme la vie. » Cette invention de langage qui transforme la vie. Voilà.
C'est comme dans le poème de Josette Segura sur le rouge-gorge, qui est une façon de saisir la vie et de la donner à voir. Voilà, c'est ça, un rouge-gorge. Voilà, c'est du feu, mais il a froid. Voilà. Et c'est comment on arrive à rendre. Parce que nous, tout ce que nous vivons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous traversons au cours de nos journées, c'est très souvent très, très factice. Et nous ne voyons pas les choses, nous ne voyons pas le monde autour de nous. Et le monde aussi se retire souvent devant nous. Et donc, l'écriture poétique essaye, sa fonction la plus difficile à atteindre. C'est pour ça que quand on se met à écrire, bon, on a derrière nous des millénaires de création, et ne serait-ce que rien que la Bible, effectivement. Après ça, que faire? Bon. Mais je pense que cette idée de jointure essentielle et qui est la chose la plus difficile à faire, la plus difficile, la plus quand on y réfléchit, c'est pour ça que parfois on se dit bon, vaut mieux rien écrire plutôt que se planter à écrire des choses qui ne servent à rien, qui ne signifient rien. Et c'est cette expérience-là dont je pense tous les écrivains, et en particulier les poètes, on tente de se confronter sans arrêt à ça. Voilà. Et ensuite, je voulais finir de me raccrocher aux branches avec Fernando Pessoa, qui dit à peu près la même chose, enfin, qui dit la même chose d'une autre façon, à savoir que ce qu'il faut pour arriver à écrire, se rendre compte que le monde est ce qu'il est et pas autre chose. Par exemple, les fameuses poésies de Alberto Caiello, qui est un de ses pseudonymes, oui. Et qui est parmi la nuée de hétéronymes qu'il a créé, de poètes qui ont écrit chacun sous son aile, est le plus matérialiste entre guillemets. Et qui dit « Ce que nous voyons des choses, ce sont les choses. Pourquoi verrions-nous une chose et s'il y en avait une autre? Pourquoi le fait de voir et d'entendre serait-il illusion? Si voir et entendre, c'est vraiment voir et entendre. L'essentiel, c'est qu'on sache voir sans se mettre à penser, qu'on sache voir lorsque l'on voit, sans même penser lorsque l'on voit, ni voir lorsque l'on pense. » Mais cela, pauvre de nous qui nous affublons d'une âme, cela exige une étude profonde. Tout un apprentissage de science à désapprendre et une claustration dans la liberté de ce couvent dont les poètes décrivent les étoiles comme les nonnes éternelles et les fleurs comme les pénitentes aussi éphémères que convaincues, mais où les étoiles ne sont à la fin que des étoiles et les fleurs que des fleurs, ce pourquoi nous les appelons étoiles et fleurs. Un autre poème qui suit, qui je terminerai là. Les bulles de savon que cet enfant s'amuse à tirer d'un chalumeau sont, dans leur translucidité, toute une philosophie. Claire, inutile et transitoire comme la nature, amie des yeux comme les choses, elles sont ce qu'elles sont, avec une précision rondelette et aérienne. Et nul, même pas l'enfant qui les abandonne, ne prétend qu'elles sont plus que ce qu'elles paraissent. Certaines se voient à peine dans l'air lumineux. Elles sont comme la brise qui passe et qui touche à peine les fleurs et dont nous savons qu'elles passent, simplement parce que quelque chose en nous s'allège et accepte tout plus nettement. Voilà, et etc. Il y a toute une suite de poèmes comme ça de Alberto Caeiro, pardon, c'est un nom difficile, qui est un pseudonyme de Fernando Pessoa, où il. Qui me plaît beaucoup chez lui, c'est cette tendance à cette volonté d'en rester d'abord aux choses et telles qu'elles sont et voilà et de les voir voilà et de sans se désapprenant comme il dit de plein de savoirs superflus parfois.
Merci de nous avoir parlé de Pessoa, Pessoa qui est la bombe atomique de la littérature du XXe siècle.
Voilà, fragmentation, ne cesse de produire des explosions depuis sa création.
Maintenant, mon cher Casimir, je voudrais surtout d'abord rappeler que tu publies donc dans les années 80, 83, si ma mémoire est bonne, La Lampe et le Ravin au Des Bleus.
Hein. Oui, voilà.
Des Bleus, donc ensuite tu vas publier chez Rougerie de temps en temps, tu vas pas te publier de temps en temps, c'est le titre.
C'est le titre, voilà.
Hein, de temps en temps, tu vas publier aujourd'hui encore un recueil chez Rougerie, tu vas publier, je pense, Elles habitent le soir, voilà. La première édition c'est à l'arbre.
Il y avait eu notre prix Arto,
prix Antoine Arto, rappelez-moi l'année.
Alors, je crois que c'est en 89, quelque chose comme ça.
Bon. Ensuite, S'éloigner de la flamme, suivi de À la même heure, avec une préface de Gaston Puel, à l'arrière-pays, donc chez Josine Segura, dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Et puis, chez Gallimard, collection L'Arpenteur, sait-on jamais. Alors, c'est un ensemble de tes poèmes de 1995 à 2004 avec une préface de Guy Goffet. Voilà, Guy Goffet. Voilà. Maintenant, Casimir, je voudrais absolument que tu nous donnes à entendre quand même tes poèmes.
Je vais lire des premiers poèmes qui avaient été. Parce que le premier qui m'a publié, c'est Henri Hartebise de l'Ensemble avec L'Horreur ou la Merveille.
L'Horreur et la Merveille,
qui est aussi épuisé. Oui. Et quelques temps après, donc, vous avez.
On peut dire que dans L'Horreur et la Merveille, il y a aussi un avant-propos de Francis Ponge.
Oui, Francis Ponge. J'avais rencontré à Nice pour le prix de poésie qui existait à l'époque. Dans le cadre du Salon du Livre qui s'est déroulé à Nice, bien avant qu'il soit à Paris. Et Francis Ponge était président du jury. Et ça a été ma première tentative pour publier. J'avais envoyé des poèmes et j'avais obtenu le second prix à ce concours pour des poèmes dont la thématique était la terre et l'arbre. Et je voulais donc la terre et l'arbre, donc l'eucalyptus. Quand l'eucalyptus risque un pas vers le soir, dans la maison on tire les rideaux jaunes, comme on écarte les tristesses dont on frissonne, une lampe souffrante à la main sans songer aux pauvres yeux qui dorment loin dans les pierres. Car nul ne se souviendra de nous, sous ce sommeil sombre, sur cette terre que ne traverse plus la mélancolie des bêtes qui n'ont pas encore de nom. Ici, on se tient au bout de la table, on la tutoie. On va sur les paupières de la terre avec modestie, le front noir de rosée. La lumière fait la roue dans le pré et l'escargot pousse sa journée sous le chèvrefeuille. Plus tard, on fera la connaissance des ruisseaux dans une barque d'avril. On s'adosse à un tronc et c'est la mort, son visage aux mille moulins. À l'entrée du village, une constellation nous barre la route. L'aube coule sous les ponts. Ici, on arrache une branche de fenouil pour l'espoir et la vie. Voilà, c'était des poèmes autour de que j'avais écrit, que j'avais repris et retravaillé pour, dans l'optique de cette thématique de la terre et de l'arbre. C'était la revue Vagabondage que le regretté Marcel Julien avait créé et dirigé et qui publiait ses poèmes. Donc, et c'est vraiment Marcel Julien est aussi un des personnages comme on n'en fait plus et que je regrette beaucoup.
On l'a vu à la FNAC un hiver, je me souviens, il neigeait, il y avait quasiment personne dans la salle.
Ah ouais.
Il y avait Serge Peille et trois ou quatre personnes.
Et donc je vais.
Alors continuons.
Ensuite,
écoute bien cette voix donc, particulière de Casimir Pratt.
Dire tes poètes de Sait-on jamais.
Sait-on jamais, donc chez Gallimard, collection voilà. d'Arpenteurs.
Qui sont une anthologie, donc une reprise de poèmes de. Du premier recueil qui s'appelait Toutes les cendres, qui avait eu le prix Max Paul Fouché, qui était épuisé aussi, et d'un ensemble plus récent qui s'appelait Sait-on jamais, que j'ai accolé, qui faisait bien un couple de groupes de poèmes sur. Sur comment dire. Bon, ce que disait Puel, puisque je fais une citation de Gaston Puel, un soir de pluie et de remords. Voilà. On sait que vient la fin, un soir de pluie et de remords, à supposer que nous sachions encore ce qu'est le remords. À travers ces gestes bredouillés sur le seuil, juste avant de partir, sous la lanterne allumée qui n'oscille plus. Cet instant de silence gêné qui suit toujours les « mais oui, bien sûr, il faudra revenir » pendant que tu pétris le trousseau de clés dans ton dos. Ensuite, après notre départ, leurs voix changeront-elles imperceptiblement de ton et ils échoueront encore à faire flamber la dernière poignée de petits bois sur les deux ou trois braises restantes. De même, lorsque, voulant ranger dans un carton les vieux livres inutiles, en les déplaçant, s'échappe de l'un d'entre eux la dépouille d'une fleur séchée qui s'effrite presque entièrement sous nos doigts. Nous laisserons dans un cendrier les restes de sa poussière, sans plus nous soucier de la colline bleue et des grands ajoncs, où avec elle, la fleur immaculée, comme en haut du grand miroir, notre enfance s'était envolée. Ainsi apprend-on que vient la fin à travers ces moments, comme d'inattention, où toutes nos sensations, nos souvenirs semblent se perdre et se dissoudre dans le même fleuve d'une mélancolie irrépressible, pris dans une attente dont nous aurions oublié l'objet, comme devant la fureur des feuilles de novembre lorsque le vent les arrache et que, humides, tachées de boue, elles s'en vont finalement, qu'infiltrer toutes les portes et les vitres de la nuit. Aboiement gris. Bien que le temps soit passé, bien qu'il soit si tard maintenant, c'est maintenant que tu y songes, et nous n'avons pas encore allumé la lampe, car le vent roule toujours dehors sans rémission. Il est si froid, gratte au volet, s'effiloche au vieux clos, siffle tristement à travers les longues clés qui pendent encore au crochet du portail, ou entre les pots de géranium, et se met en boule sous l'odeur rouge des géraniums. Le vent aussi est en nous, agitant de brumeux coquelicots dans nos yeux qui ont pleuré, le vent qui a oublié pourquoi nous avons pleuré et pourquoi aurait-il pitié. Nous fait-il penser à la mort dont l'idée n'offre rien à quoi se raccrocher, aucun souvenir, aucun miroir, mais les miroirs sont-ils mortels eux aussi? Seul peut-être à ce fracas des hirondelles fouettant l'air au ras des toitures, ou cet aboiement gris dans une cour qui se répercute et trébuche de rue en rue puis s'envole brusquement pour regretter presque tout de suite après de s'être envolé, là-bas, écho blanc parmi les frondaisons des platanes qui longent le canal, pour finir brouillard au fond du parc, recroquevillé au pied d'une statue, ou autour d'un tas de feuilles dans lequel quelques enfants, juste avant la fermeture du parc, viendront taper du pied, alors que devant le portail, les mères parlent encore, faisant tourner nerveusement sur leur épaule gauche le manche d'un parapluie noir. Laissez faire les nuages. À présent, n'y a-t-il rien de plus sûr que la pluie qui crépite sur les feuilles noires, avec l'impression d'avoir, au moins une fois, tenu son bruit fragile entre nos doigts, comme une tige de coquelicot, comme une mèche de cheveux ou le tissu d'un foulard. Et le parfum qu'il contient va jusqu'à s'écarteler au bout de l'avenue, à travers la grille fermée d'un portail. À la fin, nous ne savons s'il nous faut le regretter ou si nous devons en faire l'éloge. Et nous resterons loin du monde derrière la pluie, derrière la fine cloison de son nom, de son bruit sur les feuilles. Nous avons beau essuyer la buée sur la vitre, nous ne voyons rien, n'entendons rien d'autre. Qui vient, qui s'en va. Et quand nous nous couchons, si le lit grince, nous ne l'entendrons même pas. Le sommeil tombe sur nous, tel un grand sac plein de remords étrangers, de mots oubliés qui sentent la paille humide, le lait caillé, le rouge-gorge mort. Rien de plus sûr aussi que ce volet qui bat en haut, bégaye encore contre le temps, l'attente contre lui-même. On revoit le fou venir chez nous, se faufilant sous la haie. Suçant le lacet d'une de ses chaussures, il ausculte d'abord le fond du puits, va à gratter le sol au milieu de la cour, dissimulant dans sa poche comme un trésor les derniers graviers qu'il y trouve, entre dans la cuisine sans rien demander, décroche le téléphone et parle dans le vide, tout en tirant sur les fils des boutons de sa chemise, ou avise un coin de la longue table sur laquelle, tout en discourant avec véhémence, il aligne un à un ses cailloux, qu'il fait tourner sur eux-mêmes comme des pièces de monnaie, qu'il dispersera l'instant d'après d'un revers de main vengeur. Mais il lui arrive aussi de rester un moment immobile, accoudé à la balustrade du balcon, arborant alors un large sourire oblique, désarmant, image inversée de sa douleur, de sa terreur. Puis il s'en ira creuser l'écorce d'un arbre, toujours le même pain, toujours le même songe ancien, sans doute, qui tourne sans cesse dans sa tête avec ses lourdes branches épineuses. Il peut alors prononcer quelques paroles étranges, d'une voix saccadée. Non, vous le savez, aucune porte ne claque, jamais. Vous perdez votre temps. Laissez faire les nuages. À certains moments, une image quelconque peut sembler plus vraie, parfaite, comme cet arbre là-bas, que tout ce qui existe, plus grande que la vie même. Elle déchire toujours notre cœur, tel un brusque coup de vent qui soulève et disperse les dernières feuilles du calendrier. Cette image du fou dans ce poème-là, qui s'est un peu, qui a beaucoup, qui a disparu de, enfin, du fou. Bon, je ne reviendrai pas sur ce terme-là, je reste à ce terme pour ne pas perdre du temps. Cette image du fou a quitté, et de la folie a un peu quitté, a beaucoup quitté, j'ai un peu l'impression, domaine de la poésie et de la littérature en général, alors qu'elle a été omniprésente dans la poésie du 18e, 19e et début 20e jusqu'au surréalisme. Et je pense que c'est un tort, mais voilà, je tenais beaucoup à...
Henri Michaud, par exemple.
Michaud, qui lui a été tenté par plein de choses. Effectivement, c'est un des derniers à avoir fait des explorations comme ça dans les limites. Voilà, non, mais je...
Oui, Casimir, il nous reste 4 minutes, donc oui. Je voudrais ces 4 minutes que tu nous fasses entendre peut-être des inédits.
D'accord. Alors, je vais lire un texte qui s'appelle Le sable entre mes doigts, et qui est le texte qui conclut cet ensemble de textes qui sont plus près de la prose que du poème, mais qui passent à la fois de l'aphorisme au haïku et au petit texte prosaïque, mais proche de la poésie. Le sable entre mes doigts. Il en va ainsi depuis tant d'années. Sitôt que reviennent les premières pluies froides d'octobre, je me sens revivre. Alors que le sang se retire de sous l'enveloppe des jours, alors qu'on distingue que quelque chose s'est ralenti dans le mouvement du monde, lumière plus courte des soirs, départ des oiseaux, déposition des feuilles, plus aucun parasol sur la plage, de rares promeneurs avec leurs chiens marchent contre le vent jusqu'au bout de la jetée, puis disparaissent un à un dans les embruns. C'est à ce moment-là que je me remets à peindre, que je m'autorise du moins à le faire. Je parviens à sortir de ma torpeur, de mes quelques habitudes imposées de vieillard inutile, de mes incessantes oscillations entre une haine de plus en plus invalide et un dégoût en perpétuelle expansion. L'automne signe alors ma renaissance et m'octroie l'apaisement nécessaire au travail. Les pinceaux ne tremblent plus autant entre mes doigts. Les contours du tableau ne tanguent plus devant mes yeux comme un navire pris dans les gouffres. Les couleurs ne cherchent plus à me trahir en s'abîmant dans le tourbillon boueux des étoiles. Et l'écho de la mer, enfin si clair ce soir, entre les pins noirs que je plante à grands coups de couteau et de brosse sur ma toile, le tocsin de la mer retrouve enfin la précision insolente de mes 8 ans, quand je pouvais encore gravir en courant les dunes avec ta main dans la mienne, sous l'immense mansuétude des ciels d'autrefois. Un tout petit aphorisme qui s'appelle « Mal ». Dans ce que tu as mal fait, il n'y avait pas que des mauvaises choses. Voilà. Et la vie ne dure que 15 jours. Et donc, toujours dans ce recueil inédit, le sable entre mes doigts, si l'on retenait simplement dans le désordre, ou sans vouloir juger de leur importance respective, les quelques instants où nous sommes tombés amoureux, les quelques minutes que nous avons passées à rêver devant tel tableau ou à l'audition d'une certaine mélodie, la demi-heure où notre regard s'est trouvé hypnotisé par le poudroiement de la lumière une fin d'après-midi en août le long du tronc d'un tilleul, la durée infinitésimale au cours de laquelle, en plongeant dans un ruisseau de montagne, notre corps a ressenti ce qu'était vraiment la fraîcheur. Le soir où nous avons détaché pour toujours notre main du barreau de fer d'un certain portail. Le matin, en nous levant, quand nous avons constaté tout le sable que nous avions encore gardé dans nos chaussures. Puis cette interminable seconde pendant laquelle nos doigts ont effleuré la main ou la joue d'un mort. Ou la fin de matinée où nous avons enfin reconnu notre nom dans la liste des admissibles. Ou le temps qu'a exigé pour notre esprit de réaliser que quelqu'un qui nous tournait le dos en définitive pleurait silencieusement. L'instant où nous avons lu pour la première fois les pages qui commencent ainsi « Longtemps je me suis couché de bonne heure et les avons trouvées au début rébarbatives et sans grand intérêt. La nuit où nous avons lu l'île au trésor d'un seul trait. Le moment d'angoisse que nous avons traversé en pensant qu'à sa descente du train, il ou elle ne nous reconnaîtrait peut-être pas. Ce bout de route en voiture, quand à la couleur des feuilles des platanes qu'il abordait, il nous a semblé évident que les étés ne seraient plus pour nous les mêmes qu'avant. Tout cela et quelques autres broutilles, tous ces moments dans une vie, si on les additionnait, ne devraient pas dépasser une petite quinzaine de jours, non? Voilà.
Merci, Casimir Pratt. Donc, ainsi s'achève notre émission. Je voudrais simplement dire en deux mots qu'il y aura une soirée hommage à Michel Baglin le lundi 18 novembre à 21h à la Cave Poésie et une soirée Svantrom, le poète franco-suédois, le jeudi 21 novembre à l'Oustal, maison de l'Occitanie à Toulouse. Voilà. Merci Casimir.
Merci.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie à Dijon.